la politique a occupé à coup sûr la partie la plus importante de ma réflexion et de mes activités. Mais là aussi, le parcours n'a pas été celui qu'on imagine d'un homme politique. Je n'ai jamais appartenu à un parti. J'ai été élu au conseil régional, élu adjoint au maire de Saint-Denis, de manière tout à fait, comment dirais-je, conjoncturelle, accidentelle. Ce n'est d'ailleurs pas comme élu que j'ai agi et pesé le plus en politique. J'ai conscience d'avoir activement participé à l'évolution politique de la Réunion dans les domaines des élections, du dialogue social, du statut, de la gouvernance, de l'Indo-Océanie dont on vient de nous parler, pour ne citer que ces exemples. On peut agir en politique sans avoir été élu, sans avoir occupé des places ou exercé des fonctions à la tête de ministères ou de collectivités. Je suis tombé en politique comme Obélix est tombé dans la potion magique, dès mon plus jeune âge. Dans les années 40, j'avais 7 ans. Par mon père, je suivais avec intérêt ce qui se passait au moment du choix que devait faire la colonie entre Pétain et De Gaulle. Mon père avait beaucoup d'admiration pour le gouverneur Court qui penchait pour le choix de De Gaulle. Avec toute l'équipe du progrès autour d'Henri Levasseur, il fut un gaulliste fervent jusqu'à la fin de sa vie. J'avais admiré l'esprit de tolérance, l'ouverture, la diplomatie du gouverneur Capagori dans sa façon de gérer le ralliement de la Réunion à la France libre en 1942. Lorsque je rentrais chez moi à 11h, après les cours du matin au lycée Le Comte de Lille, Bourbon, je m'arrêtais au progrès où Henri Levasseur préparait la prochaine édition du journal, entouré de personnalités qui ont marqué la vie politique locale de l'époque, Limas, Meunier, Reves, souvent le prince Montane et quelques autres. Cela me fascinait. Un homme a complété mon éducation en politique en ce temps-là, Charles Casals. Non pas celui le plus connu comme compositeur de chansons ou auteur de pièces de théâtre, mais le père. Charles Casals, père, ancien escuré colonial à la retraite, écrivait des feuilletons pour le progrès. Oui, nous avons tout du progrès, au jeune âge. Il avait une immense culture qu'il partageait volontiers dans de longs entretiens avec le gamin que j'étais alors. Il avait une bibliothèque qui m'impressionnait. Des ouvrages reliés cuir en plusieurs tomes, en particulier une Bible, l'œuvre de Thiers complète, l'œuvre complète d'Augustin Thierry et de bien d'autres auteurs. Je me souviens de notre entretien sur les deux René collaborateurs du général de Gaulle, René Pleven, commissaire aux colonies, et René Cassin, conseiller d'État, qui donna à la France combattante et à la France libre ses bases juridiques. Au cours de cet entretien, s'est profilée la conférence de Brazzaville, qui a été ma bible de départ dans tout ce que j'ai pu faire plus tard en matière de décolonisation, en particulier de décolonisation des vieilles colonies dont la Réunion faisait partie. Plus tard, bien plus tard, deux hommes ont enrichi ma culture historique de la politique réunionnaise du XXe siècle, Marcel Gauthier et Léon Salès, deux hommes qui se détestaient cordialement. Pourquoi, depuis cette époque-là, je reliais des gens qui se détestaient déjà. Deux hommes, j'en ai appris avec eux, pas seulement en théorie. Leur pédagogie s'exerçait parfois en véritable leçon de choses, puisqu'ils étaient dans l'action. Ils m'ont beaucoup aidé à comprendre la psychologie de la classe politique locale des années 20-70. elle a beaucoup changé depuis. Pendant des études à Paris, Pierre Limagne, éminent journaliste à la Croix, grand résistant pendant l'occupation française, et dont le fils, Christian, est aujourd'hui un parfait réunionnais. Et Monseigneur Montigny, futur pape Paul VI, à travers ses écrits multiples et divers, en particulier dans ses, dans les messages qu'il adressait chaque année aux Semaines sociales de France, qu'animait Joseph Folier, ont beaucoup influencé mes orientations politiques chrétiennes. À cette époque, le travail des grands hommes politiques chrétiens que furent Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, avec le socialiste belge Henri-Paul-Henri Spaak pour la construction de l'Europe, m'a énormément impressionné. C'est probablement ce travail de Mutatis Mutandis qui est à l'origine de ce que j'ai pu faire et continue de faire pour la communauté indienne-océanienne. Plus récemment, enfin, depuis quelques 20 ans, Prosper Eve, historien, m'a donné des éclairages politiques sur l'histoire de notre peuple qui m'a profondément fait comprendre des choses essentielles concernant la Réunion, son développement et son peuple. Ce qui m'a attiré dans la fonction politique, c'est la responsabilité qui lui incombe d'organiser la société. C'est la politique qui, à mes yeux, assure le partage des tâches entre les différentes forces vives qui traversent les collectivités. C'est la politique qui garantit à chaque groupe social, culturel, religieux, économique, la libre expression de ses opinions, de ses besoins et le libre exercice de ses activités. C'est la politique qui fixe les règles de la cohabitation de ces groupes et de la résolution des conflits quand surgissent les différends, les contentieux, les oppositions. C'est la politique qui gère l'unité de la collectivité dans le respect de sa diversité et dans la justice et dans la paix. C'est la politique qui arbitre politiquement en cas d'incapacité d'entendre sur des sujets précis à des moments précis. C'est la politique qui mobilise toutes les forces morales et spirituelles susceptibles de donner de l'élan, de la cohérence, de la solidarité au service du bien commun et de l'intérêt général pour le mieux vivre possible des individus, des familles, des groupes de toutes sortes. Si la politique ne fait pas ça, elle ne fait pas son travail. Pour moi, la politique a toujours été un service. Et l'homme politique, d'abord un serviteur. Un serviteur de son peuple. L'homme politique doit être d'abord l'homme de la rencontre, du dialogue, du rassemblement, de la conscience collective, de l'intérêt de la collectivité pour l'intérêt de chacun, même et surtout en cas de conflit d'intérêts opposés. Cette capacité d'unifier, tout en gérant en partenariat les partis en présence et dans la justice les conflits, et en ne laissant personne sur le bord du chemin, cette capacité-là a toujours été pour moi la qualité par excellence, la qualité essentielle de l'homme politique. Dans les années 44-46, celle de mes 11-13 ans, je m'enfermais dans ma chambre et étalais sur le parquet des quantités de thé en carton qui représentait des hommes, des personnalités, des citoyens ordinaires, sur deux ou trois espaces différents, correspondant à des pays différents. Et à partir de là, avec toutes sortes de moyens, des papiers argent entourés, des tablettes de chocolat pour représenter les réserves d'or des banques centrales de chaque pays, j'organisais la vie de chacun d'eux, les élections, les gouvernements, les syndicats, les communautés religieuses. Chaque pays avait ses lois, ses décrets, ses conventions. Et entre chaque pays, je passais des traités. Il y avait, hélas, parfois des guerres. Le cyclone de 48, en enlevant le toit de notre maison, a réduit sous la pluie tout cela en bouillie. Mais ce jeu solitaire dans un monde virtuel, multiple et divers, m'a passionné. Et quand l'heure de l'engagement dans le réel est venue, je me suis tenu depuis 60 ans bientôt à cette vision-là de la politique. Il faut dire que dans le monde français, notamment, cette vision n'est pas dans la culture politique dominante. L'homme politique doit être partisan d'un côté contre l'autre, radicalement. Le jeu n'est pas de faire converger les énergies vers une réalisation commune, mais d'entretenir des divisions radicales qui entraînent des oppositions systématiques. Il n'y a plus de débat pour aboutir à des synthèses successives qui seront autant d'étapes parcourues vers l'unité, mais des débats pour aboutir à la victoire d'un camp sur l'autre. Et comme la victoire change de camp, il n'y a plus de continuité vers un progrès commun, mais des ruptures et des recommencements perpétuels qui entravent la marche en avant de la communauté et aboutissent souvent à des crises radicales. Ma ligne de conduite m'a valu des surnoms qui se voulaient récents. Monsieur Consensus, sur le mode de l'ironie, le petit oiseau de toutes les couleurs. L'histoire de ce sobriquet mériterait bien d'être racontée, mais elle m'a valu surtout la satisfaction d'avoir vu comment les combats que j'ai menés avec d'autres, bien sûr, au milieu d'hostilités parfois virulentes, ont abouti à des consensus aujourd'hui indiscutables et indiscutés. C'est tout juste si on ne me dit pas à moi comment vous n'avez pas compris ça depuis plus tôt. Là, je pense à la lutte contre la fraude électorale, à mon action pour libérer les organisations professionnelles de la tutelle des politiques, à l'avènement de la décentralisation, au progrès de la communauté indienne-océanienne. Les plus anciens d'entre nous savent combien ces sujets avait divisé de façon profonde notre population. Il y a une véritable révolution culturelle dans le domaine de la politique qui est en cours et qui pourrait faire basculer les choses dans un avenir prochain si nous nous y mettons tous. C'est ici qu'intervient l'aspect chrétien de l'engagement. Deux avertissements préalables. Premier avertissement. Distinguer l'homme politique qui s'engage et son engagement. Sous prétexte de cette étiquette chrétienne, les bien-pensants procèdent à un jugement ad hominem sur la sainteté de l'individu qui s'engage. Je dirais, pour survoler le sujet, que par définition, la sainteté n'est pas un préalable. La politique, pour le chrétien qui s'y engage, peut être un moyen d'accompagner son cheminement sur la voie de la sainteté. L'homme politique chrétien reste un pécheur, plus ou moins, mais pécheur. Il y aurait une hypocrisie certaine à réciter le Notre Père, je confesse à Dieu, la Nous Dei qui enlève le péché du monde, je ne suis pas digne de te recevoir aux Eucharisties, et à dire en même temps, comme le pharisien de l'évangile, moi je ne suis pas pécheur comme ce malheureux publicain. Plutôt que de condamner le pécheur qui s'engage en politique, accompagnons-le, aidons-le, ne l'enfonçons pas. La question qui se pose est de se demander, l'homme politique qui se veut chrétien s'engage vraiment à éclairer son action à la lumière de l'Évangile et à suivre en vérité Jésus, son enseignement, et à semer l'Évangile dans la société, dans l'organisation de la vie de la société. Deuxième avertissement. L'action de l'homme politique chrétien ne se mène pas en vase clos entre chrétiens. S'il est des chrétiens qui doivent descendre du balcon pour se mêler aux autres hommes dans la rue, ce sont à coup sûr les chrétiens qui s'occupent de politique. Il ne peut pas en être autrement aujourd'hui. Dans un monde occidental, la sécularisation a largement entamé tout ce que le christianisme lui avait donné de subsistance, de substance. Le débat récent sur le mariage pour tous, sur le genre, on le montre bien. Personnellement, j'ai travaillé avec des athées, des communistes, des socialistes, des hommes de droite, des hommes de gauche, oiseaux de toutes les couleurs. En respectant les convictions des uns et des autres, et en faisant en sorte que les miennes le soient également, nous avons fait des choses superbes ensemble, toutes les fois que l'esprit de service a primé sur l'esprit partisan. Pour semer l'Évangile dans le monde, il faut être au milieu du monde. Nous retrouver dans les célébrations, notamment eucharistiques, pour nourrir notre foi. Dans des rassemblements ou dans des témoignages comme moi aujourd'hui devant vous, pour manifester notre foi. Cela est important, c'est la vie, mais à la condition qu'à la sortie de la messe, qu'à la condition qu'à la sortie de cette salle, nous allions au milieu des hommes pour vivre cette foi, notre foi. Cela était faire découvrir aux hommes qui les ignorent toutes les richesses dans ces dimensions humaines et dans ces dimensions divines. Au milieu du monde, nous n'avons pas à afficher notre étiquette de chrétien à la portée en bandière. Au milieu du monde, nous devons partager le contenu de notre foi, le vécu de notre foi, sa force, son humilité, ses audaces, sa générosité pour partager, son intelligence du pardon, cette intelligence du pardon que nous aurions besoin d'avoir ici, son ouverture. C'est le thème de votre journée, à l'espérance d'un monde au-delà de notre monde, d'un monde où nous serons tous à la résurrection, au retour du Messie, que nous, chrétiens, appelons le royaume. Un royaume que Jésus, Isaïe, Saint Paul ont esquissé pour nous. Les valeurs de vérité et de lumière, les valeurs de liberté et de fraternité, les valeurs de justice et de paix, les valeurs de pauvreté et de pureté qui sont des valeurs de l'Évangile, sont compatibles avec les valeurs des hommes de bonne volonté qui appartiennent au monde. La connexion est donc possible. C'est à la grâce de faire le reste. Qu'as-tu fait de ton frère? j'avais soif, j'étais nu. Vous connaissez la suite. Ce passage m'a interpellé dans mon engagement politique. Sans doute, l'action caritative, l'action humanitaire, sont-elles des réponses à ces cris de détresse de nos frères qui ont soif, qui ont faim, qui sont nus ou sans toit? Mais ces actions sont des réponses dans l'urgence aux conséquences d'un monde qui n'est pas juste. Elles ne doivent pas être la libide, elles ne doivent pas être la bonne conscience de l'inaction pour organiser une société dans laquelle le plus grand nombre, sinon la totalité des individus, des familles, des personnes, aient une place active pour se payer ce dont ils ont besoin par leur travail et pour participer au bien commun de la collectivité, pour participer, comme on disait de mon temps au séminaire, à la création continue, à la création qui se poursuit. Ce travail d'organiser la société dans cet esprit, c'est le travail de la politique, c'est le travail des politiques. Et pour les chrétiens, c'est le travail de la construction du royaume. L'homme politique chrétien qui se trouve à la croisée des deux dimensions de la politique, doit dialoguer avec les hommes et avec Dieu en permanence. Il se trouve que le mystère de l'incarnation nous permet de dialoguer avec Dieu aussi d'homme à homme. Et dans les deux cas, le dialogue est un dialogue de serviteur. Il va dans le champ semé selon l'ordre qu'il a compris. Mais la moisson ne dépend pas de lui. Nous sommes loin de l'engagement politique réduit à l'adhésion à un parti. Nous sommes loin de l'adhésion à un homme. Nous sommes loin des passions des campagnes électorales où les bons sont d'un côté, les méchants forcément de l'autre. Nous sommes loin de servir les égaux et les ambitions de quelques-uns. Nous sommes loin de ce asservissement, d'aliénation des hommes pour des objectifs qui n'en valent pas la peine. Mais nous sommes en amour, n'est-ce pas? Nous sommes bien. Et là, mon expérience, et par là que je terminerai, me montre la difficulté non pas de vivre ensemble. À la réunion, nous posons en exemple du monde du vivre ensemble. Et nous sommes devant la difficulté du faire ensemble. Du faire ensemble parce que l'on a peur. L'on a peur de dire. L'on a peur de dire parce que on n'est pas sûr de ce que l'on dit. On a peur de dire parce que on a peur d'être à côté de la carte. On a peur de l'autre. Une des grandes satisfactions que j'ai eues cette année même, c'est d'avoir rassemblé des gens qui, un an auparavant, m'avaient dit « Si un tel est là, viens là. Si un tel est là, compte pas chez moi. Il faut surmonter ça. Parce que ça entretient des divisions. Et ça suppose une mésestime de l'autre, nous-mêmes. si nous voulons nous unir et que nous commençons par dire si un tel démon ne vient pas, je ne vois pas comment l'union pourra se faire. Et ce qui est plus grave, c'est que dans des groupes divisés, dans des groupes séparés qui s'ignorent ou qui s'excluent, on a la même ambition, on a le même idéal, on veut faire la même chose. La peur. Jean-Paul II nous a dit, n'ayez pas peur. Prenons le risque de la foi. N'ayons pas peur de notre frère. Le deuxième point, c'est le contrôle de ce qu'on a. Surtout ne pas partager. Quand je parle avec toi, dis pas lui, parce qu'il va récupérer. La peur de la récupération. Oh là là, je vis ça tous les jours. Et partageons et récupérons ensemble. Si nous nous mettons ensemble et que nous sommes d'accord, la récupération commune va nous donner de la force. La peur de la récupération par l'autre, la peur de ne pouvoir plus contrôler. Je me souviens, quand j'étais à Joe Maire, j'avais proposé de faire une association caritative pour un abri de nuit, de mettre toutes les associations caritatives de la ville ensemble dans une association. Et là, au cours de la réunion, un collègue m'a dit, mais comment tu contrôles là? Si tout le monde est dedans, on ne contrôle plus rien. Eh bien, ça, il faut arriver, ça. Parce que si on ne se met pas ensemble, si on ne met pas ensemble pour faire, il ne gagnera pas. C'est clair. Donc, et si nous sommes sûrs de ce que nous pensons, si nous sommes sûrs de la parole du Christ qui nous a dit « Je suis avec vous », de quoi avoir peur? Et surtout, de quoi avoir peur de l'autre? Eh bien, nous, chrétiens, si nous voulons faire une politique dans laquelle nous pouvons construire une réunion qui nous plaira parce qu'elle correspondra à ce que nous sommes, parce qu'on se dira, on est bien, ça c'est la réunion qui sent bon la réunion, ça c'est la réunion qui m'y aime, ça c'est la réunion qui donne à nous la possibilité de faire ce que nous avons envie de faire pour le bien, ça c'est la réunion qui va faire que, vis-à-vis du monde entier, quand un créole sera là, et bien parce que il est créole qu'il sera là, et bien, unissons-nous, et c'est ce que nous demande le Christ, c'est ce que nous demande Jésus. Soyons des semeurs de paix, soyons des semeurs d'union, et soyons des semeurs d'espérance.